我叫你爹，真谢谢我爹。然后叫你爹，真的光是个朋友的，真谢谢我爹。你光光不能理解，不能理解啊！我就想做你，这个不可以。我也很困，你讲的是吧？à fleur le risque. Et on dit ok, on ne prend pas compte, et pieusement on continue. Eh bien, en tout cas, je vais pas parler de ça, je reviens au sujet. Alors le peuple, affolé à l'idée que Moïse ne redescendrait pas sur le terre, demande à Aaron de lui faire un symbole de divinité pour remplacer Moïse, pas pour remplacer Dieu. Mais en tout cas, formellement, c'est ça la Côte d'Ivoire d'or. Faites bien attention. Ne tombez pas dans l'erreur de croire que, quelle que soit la responsabilité de ceux qui ont induit la Côte d'Ivoire d'or, il y en a à prendre, c'est-à-dire elle est brave, c'est-à-dire ce que c'est, pas l'Israël vraiment, mais la Côte d'Israël vraiment a été de celle qui est influencée par la haine brave. Et quoi qu'il en soit, la faute était d'avoir défini un symbole de la divinité pour remplacer pas Dieu, mais Moïse. Je vous dis le verset. Voici ce que le peuple dit à Aaron. Alors, parce qu'il y a un retard de 6 heures de Moïse. Koum, Aselanou Elohim, Aselilechou le Palenou, Ive Moshe Aïch. אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מהיינו. אני, בפסר את הארץ, אני אגיד, שימו דיו, כי מפרון דבוני, כאר, שתום מועיד לום, ליטרלמו, נשארי דבר כאבי דן הפרנסי גדולה, ביין, אבי מועיד לום, ומועיד פלום, ויש כסקריפי במצואה. Le médiateur, qui a un certain niveau terrestre, c'est un homme, mais un autre niveau, c'est un Dieu. Et c'est intentionnellement que je vous invite cette piste de l'Esprit. La Torah nous a raconté comment le christianisme s'est préparé à la sortie de l'Église. Ici, dans les églises où on adore la Vierge Noire, c'est une Vierge. En tout cas, c'est un sujet qu'on a étudié un jour au fond. Ne croyez pas que la Torah nous laisse à une surprise massive dans l'histoire, une massivité pareille, l'apparition du christianisme dans l'histoire des Juifs. C'est une tendance d'idolâtrer le médiateur. Je passe que l'allusion à ce qui s'est passé dans l'histoire messianique de l'Israël. Ça n'a rien à voir. Non, je vous le dis, parce que je ne veux pas fasser un lien. Il n'y a pas de lien. C'est autre chose. C'est peut-être pire. Mais en tout cas, ce n'est pas la même chose. Mais il y a une tendance à diviniser les médiateurs déjà à la sortie de Dieu. Parce que c'est terrible d'être en présence de Dieu. Le grand chéri, la grande nouveauté que Moïse a apportée dans l'histoire de l'humanité. La religion, ça passe plus par les intermédiaires, que ce soit les forces cosmiques, que ce soit les hommes exceptionnels, les mystiques, ça passe par la loi morale. C'est ça la grande chidouche. Alors imaginez ce peuple qui était habitué, quelles que soient les traditions des patriarches, à vivre dans une civilisation où ce sont les forces médiatrices qui sont les divinités. D'avoir besoin d'images entre Dieu et l'homme, de symboles, de symboliser la présence de la divinité. Et alors, bien sûr, du culte des images, c'est trop terrifié de voir l'utiliser des lignes de prière ou sur la religion, il y a des images. Et pas seulement des lignes de prière. En tout cas, et encore une fois, ça ne concerne pas le mouvement de Gaulle, que je vous dis. Ça concerne un arrière des convertis au Chabad qui n'ont pas été vaccinés comme les fondateurs du Chabad vis-à-vis de ces problèmes-là. En tout cas, pour revenir à notre sujet, dans la tradition, on a fini par s'habituer à ne donner comme représentation symbolique que les lettres de l'alphabet hébraïque. Vous avez dû remarquer cela, que dans les figurations du dictat de la loi, il y a soit le premier mot du commandement, soit à l'œuvre des dématérialités. Parce que c'est la parole qui est médiatrice entre Dieu et l'homme. Entre Dieu et l'homme, c'est la prophétie, entre l'homme et Dieu, c'est la prière, c'est la parole, d'où la qui colle uniquement la voix. La parole, c'est le mystère de notre monde. La parole, c'est une réalité qui est à la fois spirituelle et matérielle. Elle est le mystère de notre monde. Lorsque je parle, il se produit un phénomène psychique de vibration. Et si, lorsque les vibrations atteignent votre sens de l'ouïe, ça se transforme dans le cerveau en immortel, en esprit, en mystère. Et c'est la prérogative de Jacob, à Kol Kol Yaakov, qui l'a légué par hésiter à Judas, Ma Hashem Kol Yehuda. Le mystère de la voix est la seule représentation retournée du lien que nous avons avec Dieu, c'est-à-dire en fin de compte, il y a l'aide de l'alphabet hébraïque. Et je suis très touché, enfin très, comme on dit en français, très sensible à cela, que les peintres du livre de l'Orient hébreu, qui alimente les peintres, les artistes, utilisent tellement l'image de l'alphabet hébraïque, plus que toute autre figure. Et c'est vrai qu'il y a des synagogues où on met les signes zodiaques en parallèle avec les deux signes d'entraînement d'Israël. C'est vrai qu'il y a des représentations de ce genre, mais la seule représentation à faire, si je veux dire, c'est les lettres de l'alphabet hébraïque. Là, on l'apprend dans l'idéalisme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont voulu remplacer Moïse. Et que l'essentiel de la faute du veau d'or, ce n'était pas que le veau était en or. Ça, c'est les antijuifs qui parlent du veau d'or, d'Israël, la pente. Et tout ce que vous voulez, c'est qu'il arrête. Lorsqu'un croyant croit vraiment, son idole, il l'a fait en or. Or, lorsque finalement Moïse se rend compte, il brise les tables de l'autre. Alors je voudrais parler d'abord du référence de ce point. Il y a un récit extraordinaire. Dieu, au haut de la montagne, dit à Moïse, lève l'aide qui se fait à Amra. Va, descendre, car son peuple est mal conduit. Va voir ce qui se passe. Ils ont fait une idole. Et Moïse descend. Et Dieu ne lui dit pas, brise les tables de l'autre. Moïse descend. Et Josué monte à sa rencontre. Et alors, Moïse demande, qu'est-ce que ce bruit qu'il entend ? C'est le bruit du conflit qu'il y avait entre ceux qui étaient fidèles à la révélation sans image et ceux qui voulaient une image. Alors, Josué répond, c'est pas une voix et un bruit de victoire, c'est pas un brouhaha de défaite, c'est un brouhaha qu'il entend. Et moi, il descend, et moi, avant ça, je peux citer un chidouche qui m'a beaucoup frappé quand j'ai entendu la première fois. J'ai entendu de la bouche de Rav Ben Aouri, il disait ceci, il y aura une tradition que le peuple n'a été capable d'écouter directement que les deux premiers commandements. Anochi, Asenan Secha, Lui Yelecha, et Lui Macherim Antanaï. Je suis Hachem, mon Dieu, et moi qui suis, je vais faire la même chose. Alors je parle, et bien moi qui suis, celui qui s'est aujourd'hui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre foi que cela, que les villes te prendront en compte. Dans l'Israël, celui-là, je t'aime bien. Et alors, ça va expliquer que les Hébreux répétaient ce qu'ils avaient entendu. Alors je Et là, il y a une pierre de maman. Il disait chacun, Anochi, l'eau est Je vous en prie. C'est moi. Toi, tu n'auras pas. Salut, l'égoïste. Voilà, quelle voix, quel bruit on a entendu. Vous savez que les juifs, enfin les hébreux, ils rêvent à deux ennemis, l'égoïste et l'égoïste. En tout cas, pour eux, c'est une camarade. Hein. En tout cas, pour revenir au sujet, on voit ce spectacle, qu'est-ce qu'il fait, il prend les tables des hébreux. On a l'habitude de lire cela de la manière, dans la compréhension suivante, de colère, il a brisé les tables. C'est pas du tout ça. Parce que Moïse se met en colère. Il a une sainte colère. Moïse, c'est Moïse. Mais retenez la question. Pourquoi Dieu n'y a pas dit qu'il brisera les tables? Pourquoi c'est pas écrit que Dieu était d'accord, voulait, désirait qu'il brise les tables? Je vais vous lire le verset et c'est bien tenu là-dessus. Dans le récit du Deutéronome, Moïse reprend le récit de cet épisode. Il dit ceci, que 40 jours après, quand Moïse a prié, 40 jours après, là nous sommes le 17 Tammuz au moment de la brisure des premières tables. Sivan, 40 jours après, c'est le 17 Tammuz, retenez bien ça. C'est le 17 Tammuz qui a eu la première brèche sur la muraille de Jérusalem au temps des Babyloniens. Et ça nous renvoie, dans la deuxième partie de l'étude, sur ce point, à la grande question. Pourquoi existe-t-il dans le monde la brisure et il faut réparer? Et il faut réparer. Ça nous l'étudierons dans un schéma de Kabbalah. Alors voilà ce que dit le verset 2 du chapitre 10 du Deutéronome, dans la paracha de Haïté. Vaïrsov al-Amchot, il écrivit sur les tables, et ça devint les paroles, Aseraï ou al-Amchot al-Amchonim, qui se trouvait sur les premières tables, Asher Shibarta, c'est Dieu qui parle, c'est trouvé, c'est un présent inaccompli, va Erto. Va Erto. À la Loukhot, c'est un vrai machin, à la Loukhot, à l'échonim Asher Shibarta. Il y avait sur les premières tables que tu as brisé. Tout de suite, la Gemara va nous dire, ce que tu as brisé, c'est de trop penser que tu les as brisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que Dieu dit à Moïse, les tables que tu as brisées. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose, les tables que tu as bien fait de briser. Je dis que le raisonnement est très clair. Okay? Ces deux mots, Asher Shibarta, sont de trop. Si Dieu les emploie pour dire à Moïse, c'est Askama, pour dire qu'il était d'accord de briser. Après, que Moïse les brise, pardon. Après, je vais lire d'abord ce que dit la Gemara, Asher Shibarta. Ça, c'est dans Yerushalmi, Taranit, chapitre 4, Halakha 4. Tana, Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael en premier, Akadosh Baruch Hu Amar Lo Shel Avraham, c'est Dieu qui lui a dit de les briser. Ce Nehema, qui lui a dit, Asher Shibarta, que tu as brisé, Amar Lo, il lui a dit par là, il a fait Asita Asher Shibarta. Tu as bien fait de les briser. Une autre version dit Yasha Kohacha et Shibarta. Je félicite Moïse de les avoir brisés ces tables, mais la demande que je viens de citer dans le Yerushalmi dit que Dieu lui a dit de les briser. Ce n'est pas dit dans la Torah qu'il lui a dit de les briser. Avant d'expliquer le fond de ce Mahama, je voudrais citer un chidouche qu'un des élèves du Rav Nahouri que j'ai entendu il y a deux jours. Sur notre réseau d'avancement, Hazan, pardon, on est à Jérusalem quand même, sur Hazan, en compagnie du Rav Souchena, qui est un des principaux élèves du Rabbin Nahouri. Il a cité cela au nom d'un de ses maîtres de Bonne, en Algérie, dans le monde Torah, qui disait, et pourquoi la Torah ne dit pas que Dieu a demandé, de toute façon, l'homme est libre. Si Dieu avait exprimé son désir de voir l'État brisé, alors le peuple aurait été quitte de la faute qu'il a faite pour que l'État soit brisé. Mais parce que l'homme est libre, c'est pas écrit que cet homme devait être brisé. Retenez bien. Et nous arrivons maintenant à ce que dit le Yerushalmi. Et c'est un point très simple. Dieu ne peut pas briser l'État de la loi. Dieu ne peut pas porter atteinte à sa vérité. Mais il souhaite et il espère que Moïse brise les tables pour que le peuple soit sauvé. Parce que tant que les tables sont là, tant que la loi est là, le peuple est condamné. Par rapport à cette loi, le peuple est condamné. C'est ce qu'il dit à Moïse. Ne me prie pas, laisse-moi que je détruise ce peuple. Et de toi, je serai une grande nation, c'est encore un autre problème. Mais, et voilà ce qu'il a fait. Tant que la loi est là, la faute, c'est que l'homme doit l'utiliser. Et cette faute, c'est que l'Israël n'est plus Israël. Si Israël n'est plus Israël, il n'y a aucune raison qu'il reste dans l'histoire. Il doit être témoin. Parce que Dieu est le Dieu de la délivrance, de l'exil, il n'était pas le médiateur. Et voilà qu'on a demandé un symbole astrologique qui viendra. Le signe du zodiaque du temps, c'était le signe du taureau, pour remplacer Moïse, qui les a fait sortir du signe du bélier. La mentalité de la religion astrologique des élites revient, et on exige, selon l'orthodoxie astrologique, de passer dans la maison vivante. C'est clair, celui-là. C'est pas si clair pour ceci. Mais en tout cas, si vous ne comprenez pas, oubliez. Mais c'est pour vous dire à quel niveau ça se passe. On est retourné à l'adoration de Dieu à travers le déterminisme astral, à travers le déterminisme cosmique. Parce que Moïse, qui avait instauré la loi morale comme médiation entre l'homme et Dieu et Dieu et l'homme, a disparu. Sans Moïse, on est désorienté, Moïse n'est plus là, alors c'est nous, le Dieu intermédiaire du temps où nous nous trouvons après le bélier, le taureau. En réalité, c'est avant le bélier, le taureau, mais c'était une hérésie des religions égyptiennes. C'est un problème que les historiens des religions étudient en détail. Et ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est les migratifs qui nous disent que c'est le bélier qui a été demandé comme sacrifice. Le signe de l'agneau, l'agneau, le signe du bélier, comme sacrifice après ça, et que c'est le taureau qu'ils ont pris comme signe de remplacement du libérateur. Et lorsqu'on parle d'un signe du zodiaque à l'autre, qu'arrive le temps de la libération, nous sommes passés dans les années 50 du signe des poissons au signe du verseau. Il y a longtemps, on est passé du signe de la Vierge au signe suivant, et les païens ont dit le sauveur est né de la Vierge. Mais en vous mettant des clés dans les textes fondateurs du christianisme, il y a beaucoup de chambres dans la maison de mon père, c'est l'astrologie. En tout cas, pour revenir au de la terre, pour revenir au sujet, où vous êtes, il y en a permanent. Qu'est-ce que vous disiez du temps? De quoi je parle? Oui, ils ont demandé un intermédiaire entre Dieu et l'homme, à la manière des religions astrobiologiques, pour remplacer Moïse. Mais ce que je mets en évidence, c'est cela. C'est que la loi est sur terre, le peuple est condamné. Et c'est dit en clair. Quand même, j'ouvre une parenthèse importante. C'est ce verset. Et de toi, je ferai sortir une grande main. Le Midrash intervient en disant, Moïse intercède et en disant à Dieu, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de la promesse que tu leur as faite pour leur descendance. Objection. Mais si une grande nation sort de Moïse, elle sort aussi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors oui, pourquoi Moïse intercède de cette manière? De moi une grande nation et Abraham, Isaac et Jacob. Mais une grande nation sort de Moïse, c'est aussi Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que c'est clair là? La réponse, elle est dans la Gemara elle-même. L'image que Moïse a employée dans sa prière d'intercession. Il dit comment? Une table qui avait trois pieds n'a pas tenu debout. Il veut qu'une table qui a un pied tienne debout. Qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? Une table qui avait trois pieds moins un, quatre pieds moins un, trois n'a pas tenu debout. Il veut qu'une table qui est quatre pieds moins trois tienne debout. Il y a une différence entre l'identité des patriarches, qui sont les engendreurs de la nation, et l'identité de Moïse, qui est le maître de cette nation. Faire sortir un Israël de Moïse, c'est fonder une église qui s'appellerait Israël. Et encore une fois, il nous est arrivé dans l'histoire. Le véritable Israël que Dieu veut pour l'humanité, c'est la nation d'Israël, des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont d'autre part les disciples de Moïse. Mais une nation des disciples de Moïse, ça c'est les Haredim, ça c'est l'Église. Et à la place de la nation d'Israël, les descendants de Patriarche. Et c'est ça que la Gemara nous enseigne. Il faut bien le comprendre. C'est comme ça que l'Église est fondée. Une religion d'Israël, de la loi de Moïse, coupée de la nation d'Israël. Ça a pris le temps que ça a pris, et c'est devenu l'Église. C'est la nation. Enfin, la petite en général, c'est une religion de diaspora. En tout cas, pour revenir au sujet, je vous parlerai de ça lundi, pour revenir au sujet, le Dieu d'Israël, c'est dans aucune liturgie, on ne s'adresse au Dieu de Moïse. C'est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Le maître qui enseigne comment on sert le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, c'est Moïse. Mais c'est très différent. C'est ça ce que dit Gemara. Il me demande de fonder une église, on est de la vie. Et ce que Moïse dit à Dieu, je sais très bien que ce que tu souhaites, c'est le peuple de descendants d'Abraham, Isaac et de Jacob, et pas une église des disciples de Moïse. Et alors, c'est que Dieu, finalement, accepte, grâce à Moïse, d'où les Moïse Rabbis. Moïse n'a pas eu le courage de dire, moi, je ne veux pas. C'est faire ça, Israël. La religion de Moïse, ça n'existe pas. C'est la religion de la foi d'Abraham, Isaac et de Jacob. Voilà ce qu'il faut comprendre, simplement. Et alors, je referme cette parenthèse. Et finalement, Dieu accepte de suspendre la sanction. Et je me rappelle que Talmud Torah, j'avais appris, je ne résiste pas au devoir de citer le nom de mon Mélamed quand j'avais 8 ans en avance. Il s'appelait Rabbi Yahou Bouhavi, c'est comme il bracha. C'était cet ami de Khamim d'avant qui disait des choses importantes aux petits-enfants que nous étions, au Talmud Torah. Eh bien, j'ai pensé à lui, j'ai oublié peut-être. De quoi je parlais juste avant? Donc, sérieusement, rappelez-moi la phrase d'avant, je m'en rappelle. À propos de quoi?
La loi, c'est
comment? Hein? La loi. C'était il y a longtemps, c'est juste avant, quelle phrase vous dites? Bon, ça me reviendra. C'est vraiment l'enchaînement que je voudrais retrouver. Vous ne rappelez pas de quoi je parlais juste avant? C'est pas enregistré? Non, on n'a pas le temps, mais enfin. Hein? C'est ça? Mais non. Enfin, ça me reviendra ou ça me reviendra pas, c'est pas grave. On causera l'année prochaine. Mais, dans une cas, voilà dans quel état nous nous trouvons. Après 17 amour, Moshe prie pendant 40 jours pour que la faute soit suspendue, ça y est, ça me revient, et que la sanction qui devait détruire ce peuple, je lâche la montagne et ici sera notre tombe, pour utiliser ce que dit la Gemara dans le Shabbat, elle soit quand même appliquée. Mais voilà ce que le rabbin nous a expliqué. Ça ressemble quand un fils a fait une faute, le père dit à la mère, tu as vu ce que ton fils a fait. Alors la mère lui répond, et c'est pas ton fils, c'est exactement le sens du dialogue entre le chapitre 30 de l'Exode, entre Dieu et Moïse. Quand Dieu dit à Moïse, va descendre la montagne parce que ton peuple a fauté. Et Moïse s'y prie, sauve ton peuple. Vous voyez le... Alors voilà. La mère a accepté que la montagne soit jetée sur le peuple, mais caillou par caillou. Regardez d'où sont venues les pierres. Et c'est ce que le Talmud enseigne. que à chaque faute d'Israël, à l'échelle collective, à l'échelle individuelle, on paye double pour la faute qu'on vient de faire et un petit peu pour la faute du Vaudor. Après, une mise à l'épreuve à travers l'histoire ne sera rescapée des rescapés que ceux qui n'ont pas cette faute en eux, la divination du médiateur, qui mène à la religion païenne à la place de la religion morale. Et c'est ça notre grand problème de la génération actuelle, le maraboutisme. En tout cas, pour revenir au sujet, voilà que 40 jours de prière de Moïse aboutit. Alors oui. C'est là-bas qu'il faut arranger, je ne sais pas. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas... Ah, rien. Oui, là. Voilà, ça va. Donc, non, mais je ne vous demanderai pas de questions parce que ça va me faire bifurquer. S'il y a des questions à la fin, si on a le temps, avec plaisir. Mais... Alors, donc, je reprends le déroulement. 40 jours après le festival, c'est le 17 Tammuz. La fracture, la brisure. 40 jours après le 17 Tammuz, c'est le premier Elul. Et du premier Elul au 10 Tammuz, c'est le jour de Kippour, il y a 40 jours, où Moïse reçoit le deuxième temple. Voilà donc qu'on arrive à ce schéma. La question que j'avais posée, c'est que nous avons deux fêtes de la révélation de la Torah. Une en festival, où la Torah est donnée a priori de la faute. Et une fête de la Torah, de Simchat Torah, après toute la liturgie de Tishri, après Kippour. La Torah reçue après que il y a eu faute, mais il y a pardon parce qu'il y a eu réponse. Voilà le sens de notre vie. Les deuxièmes tables sont cette même Torah, mais donnée compte tenu de ce que l'homme est failli, et qu'il peut y avoir faute, mais que qu'il y a repentir, il y a pardon. Alors qu'au final, la Torah est donnée a priori de la faute. Il y a faute qui n'est pas cet Israël. Et voilà ce que nous attendons de vous. Je vais laisser le premier schéma en mémoire et vous donner la structure d'un schéma de l'enseignement de la Kabbalah qui donne la signification. Cette question, pourquoi faut-il que le monde soit détraqué puis réparé. Ce schéma, dans l'ancien nom de la Kabbalah, ne croyez pas en faire la Kabbalah. Je vais m'appuyer sur l'enseignement de Kabbalah. C'est le schéma de ce qu'on appelle Yiratakeli, c'est-à-dire la brisure des vases, littéralement. Voilà ce que il faut. Lorsque Dieu a voulu créer le monde, il a d'abord fait apparaître un espace d'être, vide d'être, pour qu'il y ait une place pour le monde. C'est ce que les kabbalistes appellent le halal. C'est-à-dire que dans l'être absolu, il y a un retrait de l'être pour qu'il y ait place pour le monde. C'est un acte moral qui préfère, et qui rend possible la création du monde, faire place à autrui. Créer, ça veut dire créer l'autre. Et donc, il y a une place d'être. Mais comment? Et alors, les kabbalistes expliquent très en détail, dans des problèmes très importants, que les philosophes n'arrivent pas à résoudre, n'arrivent pas à comprendre. La notion de création ex nihilo, de création à partir de rien, c'est un casse-tête des théologiens et philosophes, parce que c'est une fausse notion de rien, il n'apparaît rien. Qu'est-ce que ça veut dire que l'être apparaît du rien? Philosophiquement, c'est absurde. D'ailleurs, les philosophes se répondent eux-mêmes, ex nihilo nihil. Donc, c'est un objet de foi. Nous savons que le monde est créé à partir de rien, parce que la Torah l'a dit. Et parce qu'en hébreu, c'est ça que ça veut dire brillant. Mais aucune intelligence philosophique, ni extrême-orientale, ni orientale, ni occidentale, ni extrême-occidentale, qui n'a rien inventé à vous, c'est les Américains, n'est arrivé à rendre logique et cohérent une idée absurde, parce que de rien, qu'on vient à rien. Le Kabbalisme explique en disant, c'est que le néant est apparu dans l'être, et pas l'être qui est apparu dans le néant. Et dans ce néant apparu dans l'être, Dieu a émané du monde. Et au principe de cette émanation du monde, le Kabbalisme appelle les choses, les dix absolus, qui président au fait de faire exister le monde dans le but d'être primordial. Tout ça oublié, c'est pour arriver au phrase suivante. C'est un peu de Kabbalah, alors oublié. Vous connaissez comment des anges de l'arabe. Je ne sais pas traduire en hindi, je vais traduire en français. Chel Kabbalah, Tark Kabbalah. Vous avez compris? Non, c'est traduit. Il est rentré dans la Kabbalah, il est tombé dans la citerne. Le philosophe qui regarde au ciel, il voit pas qu'il y a un trou devant lui. Mais si la Kabbalah, c'est le trou. Alors je reviens au sujet. Le côté du voilà comment le kabbalisme décrit cela. Je vais apprendre un mot du kabbalah. C'est que lorsque la lumière primordiale s'est retirée d'un point de l'être, le point primordial où le monde va être finalement logé, à la suite d'une infinité de processus répétés, de vie d'être, pour qu'en fin de compte la créature projetée puisse supporter la lumière qui lui sera donnée de l'être absolu, il faut que cette lumière soit infiniment diminuée. Il y a donc un infini processus de retrait. Et il n'y a qu'une pensée contemporaine qui peut nous faire comprendre ça, c'est l'homéopathie. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des homéopathes parmi vous, vous pouvez expliquer mieux que moi. Une dilution à l'infini, et une dilution infiniment diminuée, et la présence de la substance agissante est là, bien que le disparaît. Si elle était présente dans la substance ou pas, elle est présente dans son absence. Est-ce que c'est clair? Eh bien, dans son retrait. Et dans son retrait, elle a laissé une trace. C'est cette trace de rien qui fait être l'être de terre. Je fais de la poésie pour ne pas faire de la Kabbalah vraiment. Mais enfin, le sens, c'est le même. Et alors, lorsque la lumière revient dans ce halal, dans ce vide d'être, elle rencontre les niveaux d'être. Et lorsqu'elle rencontre les niveaux d'être, à chaque niveau de retrait, apparaît une sphère de la lumière qui irradie autour de cette trace d'absence que le Kabbaliste appelle le réfugié. Rocher, mon ami. Et voilà que, on nous explique que lorsque la lumière revient, les trois sphérotes supérieures sont capables de la supporter, mais pas les sept sphérotes inférieures, tandis que l'inférieur, c'est la périphérie. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 lumières. Les 10 lumières sont proposées à la première sphère d'en haut. Mais elle est tellement proche de l'absolu qui est en dehors du vide, elle est tellement haut, tellement proche, que le colis, le vase, le véhicule qui va recevoir cette lumière peut la recevoir sans éclater, sans être brisé. Et c'est vrai de la lumière Sira, c'est-à-dire Forma Bina, c'est vrai de la troisième. Mais dès qu'on arrive au sirop des valeurs morales, ça commence par Réfé, Goura, etc., le colis éclate. Il n'a pas la force, la transparence, exactement, de pouvoir recevoir la lumière. Alors le CD éclate, la lumière remonte, et des débris de ce CD tombent au centre. Et c'est pourquoi le premier verset de la Torah dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et la terre était chaos, et les cieux ont disparu. Les cieux sont remontés, les lumières des cieux sont remontées, parce qu'il n'y avait pas de Kélim capable de les retenir, et au centre il y a eu un chaos, des débris des Kélim des cieux. Les sept, il y a les cieux des cieux, c'est les trois supérieurs, les cieux, c'est les cieux intérieurs, la terre, c'est la septième, c'est la dixième. Je parle vite pour que vous oubliez, mais pour que vous compreniez qu'il y a une cohérence absolue. Et alors, commence l'histoire de la réparation des mondes, du tikkun. En bas, il y a les créatures, et lorsqu'apparaissent les créatures capables de restituer, de restaurer, ces kélims brisés, ces lumières redescendent. Abraham a restitué le kélim de Chesed, la lumière de Chesed redescend. Grâce à Abraham, il y a Chesed dans le monde. et en toute culture. Isaac, Goura, Yaakov, Tiferet, Moshe, Nessar, Aaron, Hod, Yosef, Nechaz, Yesod et David, Malchut. Bon, j'expliquerai pas, mais ça c'est Jésus. Ce sont les sept piliers du monde qui ont restauré les sept cellules qui étaient brisées. Mais c'est ce schéma qui est derrière notre histoire. Le principe est très simple à comprendre. C'est le grand enseignement de la Kabbalah paradis. C'est que l'histoire réalise les structures des choses. Dans l'histoire se passe ce qui s'est passé à la création dans l'histoire. Le monde a été créé, mais il ne supporte pas d'être. Il n'est pas encore assez méritant. Je coûte, j'accoute, pas assez transparent. Et il est brisé. Et il faut le réparer. C'est l'histoire du monde. C'est le schéma de l'histoire du monde. À l'origine, il y a un chaos, parce que le monde s'est brisé, qui s'est loin de Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu est en chaos. Et le monde, c'est l'autre que Dieu. Et le monde, à l'instant de son existence, est chaos. Il faut réparer le chaos. Eh bien, c'est les grandes âmes d'Israël qui ont réparé. Ils sont Merkava la Shrina. Il faut comprendre ça de ça. Ils sont le véhicule de la présence divine. Abraham pressé, Banoubourg, etc. Et le monde, à l'état de chaos, doit être réparé. Voilà ce qu'on a. Le monde, dans son absolu, nous est inaccessible. Parce que nous sommes les créatures. Et puis, il faut que nous réparions la brisure du monde. C'est ce qui est arrivé dans l'histoire de la génération de la sortie de Dieu. L'absolu des vérités révélées au festival, brisé le dictat de Tamoul, grâce à Moïse restauré, grâce au fait que s'il y a faute, mais qu'il y a repenti, il peut y avoir pardon. Le pardon, c'était le Yom Kippour, le premier Yom Kippour de l'histoire, les discussions en l'insiste que le pardon est possible puisque la Torah est rendue. Et alors, on va fêter la Torah à Simchat Torah, la Torah des deuxièmes tables. C'est-à-dire que les premières ne sont inaccessibles parce que ça ne concernerait que les tzadikis. Mais nous ne sommes pas les tzadikis, nous sommes les chrétiens. Dont la Torah demandait trois tzadikis. Mais ça, c'est le projet du Gemara Tikkun, de la fin de la restauration, de la fin de la rédemption. Pendant toute l'histoire, ça nous est inaccessible, sauf à ces yéchidines, à ces êtres exceptionnels qui étaient déjà Israël avant la fin du temps. Et à ce que l'on a nommé d'un nom que Dieu a agréé. Il s'appelle Dieu d'Abraham. Il est Dieu d'Abraham. Ça, pas des autres. Il est Dieu d'Abraham, parce qu'Abraham a nommé. Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, etc. Mais dans l'ordre des dimensions des pères, nous nous sommes les. Israël adore le Dieu des pères, pas le Dieu des maîtres. Ça, c'est le paganisme des idolâtres. Ça, c'est le Dieu qui a derrière l'image du gourou. Ça, c'est le paganisme des idolâtres. Ça, c'est le problème de la faute du voleur. Et pour revenir au sujet, l'importance de Simchat Torah, c'est que nous avons la preuve dans notre histoire que même s'il y a faute, il peut y avoir réparation par le repentir. Il peut y avoir pardon si le repentir est senti pour s'attendre le jugement. Dire au Tchouva, d'ici, on se rappelle, les termes nous sont rendus. Je vous laisse très tard. Donner l'image. Comment Dieu a créé le monde? C'est comme une mère qui met au monde son enfant, loin d'elle, et lui dit reviens. Mais si l'enfant pouvait parler, elle dit comment reviens? Je vais me casser la figure. Je vais tomber par terre. Elle dit débrouille-toi. Voilà la marque à suivre. Voilà la fin. Reviens. L'histoire du monde, c'est l'histoire d'une tchouva. C'est l'enfant qui revient à sa mère. Mais c'est la mère qui l'a mis loin. Pourquoi? Pour qu'il apprenne à marcher. Et pour qu'il revienne, sachant marcher par lui-même. et puis surtout plus profondément que ça. Il va apprendre à marcher, mais pourquoi? Pour revenir chez sa mère ou pour aller ailleurs? C'est ça l'épreuve de l'affaire. Il va apprendre à marcher, mais pourquoi? Et effectivement, ça c'est l'enseignement du Rascou, l'histoire du monde et l'histoire du Teshuva. Le monde revient, mais avec un acquis. Cette expérience de l'histoire, si dramatique et parfois tragique, qu'on y a prévu. Non. On marche sur le chemin du retour, mais on prévu. Ça, c'est la faute. Et il faut guérir. Et alors, ça, c'est l'histoire de notre calendrier. Du festival à Simchatora, à Simchatora. Je vais terminer cette première partie. Ensuite, je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure il est ? 11h ? 11h10. Est-ce que le Rav Hazan est arrivé ? Non. Non, on va commencer dans un quart d'heure, on commencera. Vous n'y avez pas donné une place. Allez, la politesse. Allez, voilà. Si vous récitez, tout le monde sait que je vais lever. La place est là. Ça sent la politesse. Vous savez, quand Dieu a réparti les valeurs, il a donné la Torah à Israël, le Dereferet au Goyim. C'est pourquoi la Mishnah dit il y a fait Torah une Dereferet. Ça implique que Torah sans Dereferet doit à la bourse. Mais c'est vrai, c'est ça qui manque au Goyim. En tout cas, pour revenir, vous savez ce qui manque au Goyim, ça s'appelle la Torah. En tout cas, pour revenir à notre sujet, je voulais terminer. Ensuite, vous aurez une question, puis on fera une petite arsaka, j'espère que votre âme sera revenue. Sur un enseignement du Shla à propos d'un verset de Shemot sur le commentaire de Rashi. Alors je vais expliquer quel est le verset, le commentaire de Rashi, et je vous dirai quel est le fil du Shla qui va récapituler en une phrase tout ce que nous avons appris sur les deuxièmes tables de la Torah. C'est le premier verset de la paracha de Mishpatim, le verset du Dieu. Qui t'itmet Eved Ivri, lorsque tu acquerras un esclave hébreu, en fin de compte, libère-le au bout de 6 ans. Vous connaissez ça? Et tout de suite, on est secoué. D'où il sort cet esclave hébreu? On est dans le livre de l'Exode. Pendant X chapitres, on nous a raconté l'intervention de Dieu dans l'histoire pour libérer les Hébreux de l'esclavage, on nous a donné les 10 commandements, et tout de suite après, quelle est la première loi de jurisprudence de cette Torah des 10 commandements, Mishpatim, qui s'étonnait, elle est venue, ça éclate. D'où il sort cet esclave hébreu. Et on apprend par le Talmud qu'il y avait deux situations où un hébreu pouvait être esclave. Toi, un hébreu, juge par lui-même, qui n'est pas capable de vivre comme homme libre, n'est pas capable de toute manière libre de la société des hébreux, il est libre de devenir avariam, avariam en français. Délinquant, j'étais en train d'être croisé par ivri et avariam dans les mêmes lettres. Et puis, alors il se vend comme esclave. En français, littéralement, il se place comme domestique. C'est-à-dire, pour ne pas tomber dans la vie de voler, de tuer pour voler, alors il prend acte, il n'est pas capable d'être en vie, il va être la hébreu, il vend son temps à un homme libre. Et puis, un deuxième cas. La faute a eu lieu, le vol a eu lieu, on l'a convaincu de délinquance, et alors c'est le criminel qui le vend comme esclave, c'est un homme libre, et la législation de la relation entre les maîtres de ces esclaves et des esclaves, c'est celle d'une pédagogie d'apprendre à devenir homme libre. Et au bout de 6 ans, de la 6e année, celui qui était esclave, il est suffisamment formé pour être capable d'être homme libre, et alors à ce moment-là, il est libre.